ami de Sainte-Beuve qui habite dans la même rue. Et Sainte-Beuve sera un ami intime également de Pavie durant toute sa vie.
Pavie, Hugo, très vite, ces deux-là vont bien s'entendre.
Alors il y a une différence de dimension. Hugo est un géant qui voit plusieurs siècles en avant. Pavie regarde surtout le passé, un petit peu nostalgique, ce qu'on appelle un peu un anti-moderne. Mais au début, oui, il fusionne, parce que le premier Hugo, si vous voulez, est royaliste, monarchiste, à la fin de la Révolution, après l'Empire. On aspire à un retour au calme, et on pense que la monarchie, la restauration, va apporter ça.
Ça apporte aussi la censure, et puis le vent de la liberté a soufflé, donc Hugo le dit lui-même, et il serait injuste qu'il ne souffle pas dans les choses les plus libres qui soient, celles de la pensée.
Est-ce que Pavie, mais on a cru le comprendre en vous entendant déjà, a influencé le travail d'Hugo? Oui, apparemment.
Bien, déjà, c'est son premier disciple, hein, pratiquement, avec Sainte-Beuve, mais Pavie écrit tout de suite et le clame à la face des Angevins, en tout cas, ce qui lui vaut quelques réprimandes parfois de la part du père, qui ne veut pas que son journal ait trop de... problème, parce que quand même, romantique est une insulte au départ, hein. C'est comme impressionniste, c'est comme... Et donc, il ne fait pas bon être romantique en ce temps où le classicisme, justement, revient avec la Restauration. Et puis, Hugo, en fait, lui, va aimer chez Pavie cet enthousiasme, cette fraîcheur, cette sincérité. Et Pavie comprend très très bien tout l'enjeu des écrits d'Hugo, qui ne visent pas seulement à réformer la littérature, mais poursuivre cet idéal républicain d'une nouvelle société, d'un nouvel individu.
Et donc il va lui inspirer donc, la préface de Cromwell.
Oui, c'est ce que l'on a un petit peu découvert en épluchant toutes les sources, les nouvelles sources que j'ai pu trouver. Il lui a inspiré également peut-être le titre de son recueil « Les feuilles d'automne », qui est le premier recueil de poésie lyrique, un tournant majeur dans l'œuvre d'Hugo, puisque dans un poème publié dans les Affiches d'Angers, on a un vers qui parle d'une feuille qui avait particulièrement touché Hugo, comme il l'écrit dans une lettre à Pavie.
Alors avec autant d'influence, pourquoi on ne connaît pas ce personnage Victor Pavie, ou on connaît peu Victor Pavie?
Alors, peut-être deux ou trois raisons. La première, c'est que sa personnalité est très tourmentée. Il doute beaucoup de lui. Il a des tendances dépressives. Il n'ose pas autant qu'Hugo. Il n'a pas non plus un style très clair. Donc, ça peut rebuter certains lecteurs. Première raison. Deuxième raison, son père compte sur lui pour reprendre l'imprimerie et le journal, puisque le second frère, Théodore, qui est un homme extraordinaire également, lui parcourt le monde.
Un grand voyageur,
qui parlait 9 langues, qui a exploré les États-Unis avant Tocqueville, l'Amérique du Sud dans des conditions incroyables, et puis l'Inde et l'Égypte. Donc il doit reprendre cette imprimerie. Et puis troisièmement, il a préféré sa vie de notable angevin à une vie exposée de romantique. Vous savez que Victor Hugo a payé de 19 ans d'exil, surtout son engagement en politique, mais c'était un petit peu la suite de l'engagement en littérature. Les hommes du 19e siècle ne faisaient pas de différence. Georges Sand a été ministre de la propagande, Lamartine et Hugo avaient un ticket pour la révolution de 1848, etc. Et Hugo lui-même a été député, sénateur, maire de France. Non, Pavie...
Ne voulait pas tout ça.
Ouais.
Guy Trigalo, vous restez avec nous. On poursuit cet entretien juste après une page de publicité. A tout de suite.
De chercher un petit château, il l'avait trouvé.
C'était où?
Alors, le château, c'était le château du Pont-de-Cé.
D'accord. Pas si loin d'ici, pas si loin des studios de la radio. Et puis une dernière petite anecdote, parce qu'il paraît que la femme d'Hugo, elle, était surnommée Madame Maine-et-Loire.
C'est la première mise en joue, oui.
La première mise en joue.
C'est une boutade, mais oui, elle a tellement fait impression, non pas par sa beauté,
trop visible, mais par sa dignité sans doute, par le fait aussi qu'elle était la femme d'Hugo. Donc au mariage de Victor Pally, pour lequel elle s'est déplacée. Il s'est marié à Sainte-Belaine, et puis oui, elle a fait très impression au dîner de notables qui regroupait 70 invités.
Merci, Guy Rigalot, d'avoir en tout cas témoigné sur notre antenne. Je rappelle que vous êtes docteur en littérature, langue et civilisation, auteur de ce livre Les deux Victors qui vient donc de paraître. Et si vous voulez en savoir plus sur les liens qui unissaient ces deux personnages, Victor Hugo et Victor Pavy, je vous invite à la conférence dédicace que vous assurez, donc Guy Rigalot, ce samedi à 14h. Ce sera au Musée des Beaux-Arts et l'entrée est libre. C'est bien ça ?
C'est ça.
À vous, David.